do you think I move? Where do you think I move? Why do you think I move? Why do you think I move? Do you think I move out of fear?
Can you cross? Can I cross? Can I cross? Can I cross? Can I cross? I move, I move, I move, I move. I want to move, I want to move, I want to move, I want to move. Can you cross this line? Can you cross this line? Can I cross? I have my papers. See, I have my papers. I can cross, I can cross, I can cross. I can cross this line. I can cross this line. Do you have your papers? Do you have your papers? Can you move? Can you move? Can you move? Can you move? Move, cross this line. Do you have your my papers? I want to cross this line. Yes, I want to move. I want to move. I want to move. I want to move. Do you have your papers? Yes, I can cross this line. Can I cross this line? Can I cross this line? You want to come to this line? You want to cross this? Do you want to cross this line? Do you have your papers? Do you have your papers? Would you like to cross this line? Yes, I want to move. I want to move. I move. I move.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, ta radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
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 Vous êtes bien sur Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi.
Et à l'international. Donc, on commence par un sujet sur, une fois n'est pas coutume, hein, sur la Chine, qui ne serait pas si unique que ça. On enchaînera ensuite sur un sujet dont on a déjà parlé il y a 15 jours, mais il y a des nouvelles fraîches en Irak. Et on finira à l'international par la réélection contestée d'Evo Morales en Bolivie.
Et du coup, au national, on parlera de la patronne de la RATP qui s'est octroyée une petite augmentation. Et puis, on aura un invité qui nous parlera de Caen et de, notamment de l'expulsion du squad du Marais.
Et au local, on vous présentera un petit reportage sur rassemblement contre l'islamophobie qui a lieu ce week-end. Et ensuite, pour finir, on ira sur notre dossier sur le Chili avec plusieurs invités chiliens qui viendront, enfin chiliennes, qui viendront nous parler de la situation au Chili et des initiatives prises ici à Lyon.
Et on commence tout de suite avec l'international, donc par la Chine.
Voilà, donc on va reparler un peu de la Chine, notamment parce que le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit vient d'être attribué à Ilham Toti, un universitaire chinois, mais surtout un universitaire de l'ethnie ouïghour, principalement musulmane, qui se trouve en Chine. Ilham Toti est enfermé depuis 2014 par l'État chinois pour séparatisme, inculpation pour laquelle il est condamné à la prison à perpétuité. Pour remettre un peu en contexte, les Ouïghours sont une ethnie qui en Chine est principalement concentrée dans la région du Xinjiang, anciennement appelée Turkestan oriental, et réprimée principalement pour leur résistance à l'acculturation chinoise. C'est-à-dire une résistance à la langue nationale, le mandarin, et une affirmation de la religion musulmane qui, comme les autres religions, n'est pas tolérée par le Parti communiste chinois, qui a vocation à être le seul guide et maître de sa population sur le territoire. Cette région avait bénéficié d'un état de semi-autonomie par rapport à la Chine pendant 5 ans, de 44 à 49, avant la prise de pouvoir du Parti communiste. Le pouvoir chinois a en effet un fort intérêt à garder cette région sous son contrôle, puisqu'ils sont concentrés les plus grandes réserves de pétrole, gaz, charbon et d'uranium en Chine. Les soulèvements qui ont existé depuis toujours ont tous été réprimés violemment, même les plus pacifiques. Cette répression est justifiée par Pékin, par une éradication des terroristes, assimilant petit à petit tous les Ouïghours donc à des terroristes sous prétexte de l'existence d'un parti islamique du Turkestan qui avait des liens avec Al-Qaïda. Et pourtant, les personnes arrêtées ne le sont que rarement pour avoir des liens démontrés avec cette organisation et sont généralement des manifestants pacifiques. En 1990, par exemple, un peu moins de 1000 personnes descendent dans la rue au Xinjiang pour protester contre une interdiction de construction d'une mosquée. 60 personnes sont tuées immédiatement par la police et un peu plus tard dans l'année, c'est plus de 7000 personnes qui sont arrêtées sous un motif un peu obscur d'activités criminelles de séparatistes ethniques et qui ne précise pas ce qui est vraiment et concrètement reproché aux personnes arrêtées. Pour un autre exemple, en 1996, on estime que 10 000 personnes ont été arrêtées pour séparatisme, ce fameux motif, et un certain nombre qui n'est pas connu, qui n'a pas été rendu officiel, a été exécuté publiquement pour le même motif, donc de séparatisme. C'est aussi dans les années 90 que des attentats commencent à avoir lieu dans la région, se revendiquant pour l'indépendance du Xinjiang, mais la répression face à ces attentats sert d'excuse pour frapper systématiquement beaucoup plus large. Tout ça crée un terrain propice à des tensions dans la région du Xinjiang où cohabitent des Ouïghours et des Han, l'ethnie chinoise majoritaire, et aussi un terrain propice à une radicalisation violente, souvent mal ciblée, puisque ce sont bien des civils qui meurent dans les attentats, comme celui de la place Tiananmen en 2013, qui avait fait 5 morts et 40 blessés. On imagine difficilement comment arriver à une autre situation quand on sait que la Chine ne mène pas une politique de lutte contre le terrorisme, mais bien une lutte contre toute pensée divergente de la doctrine du pouvoir. On sait bien maintenant que des milliers de musulmans sont enfermés en Chine dans des camps de redressement, non pas parce qu'ils appartiennent à une organisation terroriste, mais bien parce qu'ils sont musulmans. L'ONU a récemment estimé qu'en 2018, on en était à 1 million de personnes enfermées dans ces camps, où entre autres mauvais traitements, il y a obligation de parler mandarin, sous peine d'être battu, ou encore de manger du porc et de boire de l'alcool. Pour en revenir au prix Sakharov, Ilham Tohti est un économiste bilingue, en ouïghour et en mandarin, qui n'a jamais soutenu le recours à la violence, ni même parlé d'indépendance pour le Xinjiang. Il était membre du parti communiste chinois, et professeur d'université à Pékin. C'est un statut que les Ouïghours obtiennent rarement, et il aurait pu être un modèle de l'intégration ouïghour, parfait contre-exemple pour ceux qui dénonceraient une discrimination des Ouïghours en Chine. Mais voilà, il milite pour la démocratisation de la Chine et il soutenait que la fin des tensions au Xinjiang devait passer par la fin des dérives policières et la réduction de la discrimination économique des Ouïghours. Il est arrêté une première fois en 2009 durant des émeutes auxquelles il n'avait pas pris part, puis en 2014 pour séparatisme alors qu'il s'en est toujours bien gardé. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est l'occasion de revenir sur le mythe relayé par le pouvoir chinois, mais aussi par une écrasante majorité de ses ressortissants, d'une Chine unie et indivisible. L'implantation de ce mythe se fait sentir jusqu'en dehors des frontières de la Chine, comme récemment, vous vous en souvenez peut-être, durant des manifestations de soutien aux Hongkongais, à Paris, à Sydney ou encore à Londres. Et donc des Chinois ou des personnes d'origine chinoise s'en étaient pris violemment aux manifestants, parfois physiquement, et en leur demandant des choses comme de s'agenouiller devant leur maître, et surtout les accusant d'être des menteurs, que les manifestants hongkongais ne sont qu'une minorité, et que tout le monde en Chine est d'accord. Pourtant, le nombre réel des manifestants en Hong Kong, le nombre de musulmans enfermés, mais on pourrait aussi parler du Tibet et d'autres mouvements sociaux réprimés en Chine, et qui percent moins dans les médias, tous ces mouvements prouvent que la Chine n'est pas unie autour d'une nation et d'une politique intérieure. Comment ce mythe perdure chez une si grande partie de la population chinoise et même chez des populations d'origine chinoise émigrées à l'étranger est une question que plusieurs journalistes d'origine chinoise ont tenté d'expliquer dans différents articles, plutôt dans la presse anglophone. Ils expliquent que grandir en Chine, c'est grandir dans un patriotisme exacerbé. C'est une sorte de roman national fondé sur les humiliations que lui ont fait subir l'Occident et le Japon, que ce n'est que le Parti communiste chinois qui a relevé la Chine et que ce n'est qu'en restant unis derrière le parti que la Chine et les Chinois peuvent prospérer. Et ce roman, qui s'appuie sur des faits très réels de l'histoire chinoise, est enseigné de façon très manichéenne tout au long de la scolarité en Chine et rabâché ensuite à la télévision, notamment sous la forme de séries télévisées qui occupent au moins la moitié du temps d'antenne et qui ne sont que des variations autour des guerres de l'opium dont on vous avait parlé dans le dossier sur Hong Kong, ou des guerres contre le cruel Japon face auxquelles de jeunes membres du parti se sont sacrifiés sans se poser de questions pour leur pays. Tout ça s'accompagne bien sûr de désinformation dans les médias et de censure sur les réseaux sociaux, censure dont on ne se cache pas en Chine et qui ironiquement montre bien que la Chine n'a pas un esprit uni. Et ce qui est intéressant dans ces articles, et notamment dans un publié dans le New York Times du 14 octobre, c'est que ces journalistes parlent des difficultés qu'ils ont eues pour désapprendre toute cette propagande, mais aussi à quel point cette unité patriotique ne signifie pas une unité de pensée. D'après eux, beaucoup de Chinois sont capables de percevoir les injustices en Chine et dans une certaine mesure d'être critiques de leur gouvernement, mais en même temps d'être un peu susceptibles sur tout ce qui serait critique de la Chine dans son ensemble ou qui serait une critique venant de l'étranger. Le journaliste Dian Nantian, dans un article plus ancien, donne l'exemple d'un ami à qui, au début du mouvement, soutenait les manifestants hongkongais. Mais qui, à partir du moment où le drapeau colonial britannique a été hissé dans le Parlement à Hong Kong, et ce bien qu'il n'y soit resté que quelques minutes et ne représente en rien la protestation, s'est mis à les condamner sur tous les points. Et un autre journaliste relève d'ailleurs que ce gouvernement chinois fait de plus en plus appel à ce nationalisme et ressort des slogans vieux de plus de 30 ans du type « Sans le Parti communiste, il n'y a pas de Chine ». Si je trouve intéressant de parler de ces journalistes, c'est qu'en creux, ils racontent une population finalement informée avec un potentiel critique et un gouvernement qui joue de plus en plus la carte nationaliste pour contrôler cette population et qui est en plus éduqué et qui a de plus en plus de liens avec l'étranger. Si bien qu'on pourrait croire que le gouvernement a peur de perdre le contrôle et qu'il se passe peut-être quelque chose en Chine.
Et maintenant, on va passer à la situation en Irak.
Alors l'Irak, on vous en avait parlé il y a 15 jours, et d'ailleurs depuis 15 jours il ne s'était pas passé grand chose. Alors pourquoi est-ce que depuis le 1er octobre, hein, on va refaire un petit récapitulatif, les Irakiens sont dans la rue. Pour rappel, l'actuel pouvoir irakien a été mis en place après l'intervention américaine impérialiste de 2003. C'est un pouvoir à majorité chiite, autoritaire, ultra corrompu, ethno-sectaire, hein, qui a une forte tendance à réprimer les minorités religieuses et en particulier les sunnites. Et depuis cette intervention américaine de 2003, eh bien, il applique massivement des politiques économiques ultra-libérales. C'est ce que Naomi Klein, je vous l'avais déjà dit, appelle la stratégie du choc. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé au Chili dans les années 70 après l'intervention militaire la prise de pouvoir militaire de Pinochet. On en parlera tout à l'heure. Hein, et la mise en place de politiques ultra-libérales par des situations très conflictuelles, hein, qui anéantissent les possibilités de se révolter. Et donc, depuis cette intervention américaine, eh bien, le gouvernement en place, le pouvoir en place est ultra-corrompu. Tous les partis politiques y compris le parti communiste irakien ont une responsabilité dans le pillage systématique des richesses du pays. 60% de la population est à moins de 25 ans. Au moins une personne sur deux parmi cette population est au chômage et l'ensemble des services publics ne fonctionne pas, et dans un certain nombre de régions du pays, l'accès aux soins et à l'éducation sont loin d'être possible. Alors, il y a 15 jours, on était à 150 morts et 6 000 blessés, puisque ce gouvernement utilise la répression sanglante par sa police, par son armée, mais également par des milices chiites iraniennes, donc qui sont directement en lien avec les gardiens de la révolution d'Iran pour attaquer les manifestants dans les manifestations et les tuer. Le conflit va d'ailleurs bien au-delà des divergences, voire des guerres interconfessionnelles, et c'est un peu une nouveauté en Irak. Et ce mouvement de contestation, il a encore gagné en ampleur depuis ce week-end, et plus particulièrement aujourd'hui. Les étudiants et les lycéens des grandes villes ont rejoint le mouvement, alors qu'auparavant, c'était un mouvement qui était principalement issu des jeunes des quartiers populaires. D'ailleurs, les enseignants ont décidé de rentrer en grève reconductible aujourd'hui également, et ils scandent dans les manifestations avec les lycéens et les étudiants. Pas d'école, pas de travail, jusqu'à la chute du régime, mais aussi Iran dehors. Je vous le disais, les milices chiites iraniennes ont un rôle très important dans la répression des manifestants. D'ailleurs, la province ethnique et confessionnelle de Diyala, à la frontière de l'Iran, jusqu'ici restée à l'écart et souvent à l'écart de ces mobilisations, a également rejoint le mouvement, et des piquets de grève ont bloqué les administrations publiques et les universités. Il faut dire que la répression sanglante ne cesse d'augmenter. Depuis jeudi, 82 nouvelles personnes ont été tuées. par la police, par l'armée et par les milichites, portant à 239 personnes le nombre de tués depuis le 1er octobre, et on est à plus de 8000 blessés. Ce week-end a été particulièrement sanglant, notamment à Bagdad, après une quinzaine de jours d'accalmie, je vous l'ai dit tout à l'heure, dû aux célébrations chiites d'Arbaïn. À Bagdad, les manifestants essayent d'atteindre ce qu'on appelle la zone verte, où se situe à la fois le siège du gouvernement, mais également plusieurs ambassades, dont celle des États-Unis. Certains policiers, d'ailleurs, depuis ce week-end, seraient en train de lever le pied au niveau de la répression, arborant même pour certains des drapeaux irakiens, comme un signe de soutien aux manifestants. Mais sauf qu'en face, il y a l'armée, il y a les membres des forces spéciales irakiennes et ces fameuses milices qui mutilent de manière volontaire des milliers de manifestants à coups de tirs tendus de grenades lacrymogènes et assourdissantes, peut-être une petite dédicace au keuf français, mais surtout qui continuent à tirer à balles réelles. Au final, on peut dire que l'Irak est pris en tenaille, réellement pris en tenaille entre les impérialismes américains et iraniens. Ces deux puissances soutiennent ce gouvernement sanguinaire, ultra-libéral sur le plan économique et ultra-répressif, ultra-corrompu. Ils ont des intérêts propres à défendre leurs intérêts sur le dos du peuple qui souffre et qui se fait tuer en manifestant. Alors, on pourrait conclure par « à bas le régime irakien » et « à bas l'impérialisme américain et iranien ».
On enchaîne du coup avec la Bolivie où Evo Morales vient d'être réélu.
Oui, vendredi dernier, la Bolivie a enfin connu les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui s'était déroulé dimanche 20 octobre. Donc c'est Evo Morales qui est réélu pour un quatrième mandat de président avec 47,08% des suffrages. Ainsi, Morales semble reparti encore pour 5 ans au pouvoir après déjà 14 ans à occuper la présidence. Or, il apparaît apparemment Morales donc est complètement vissé au pouvoir en Bolivie. Hein. Pour le rappeler, il avait déjà été réélu une fois. Après avoir déjà été réélu une fois, il avait fait modifier la constitution une première fois pour briguer un troisième mandat. La constitution bolivienne limitant le nombre de mandats à 2 à l'origine. Après avoir réussi cette première manœuvre pour pouvoir faire ce quatrième mandat, donc pour pouvoir être réélu une quatrième fois comme il vient de le faire. Il a fait modifier une seconde fois la constitution pendant son dernier mandat, de manière assez douteuse d'ailleurs. Hein. Après un référendum perdu pour la transformer, il a usé d'une astuce juridique, en invoquant notamment les droits de l'homme, pour faire approuver malgré tout la modification par la Cour constitutionnelle. Donc en Bolivie aujourd'hui, que ce soit la Cour constitutionnelle, le pouvoir judiciaire, le Parlement, tout semble sous le contrôle du Parti socialiste de Morales, le MAS. L'opposition, alors elle est habituellement depuis plusieurs années très divisée, hein, mais inhabituellement en fait, là on a pu voir au cours de l'élection du dimanche 20 octobre, donc le principal opposant, Carlos Meza, beaucoup de points, il avait même l'air d'être en passe de s'imposer pour un second tour. Hein. Alors clarifions un peu les choses. Hein. Donc il y a une loi électorale en fait en Bolivie que Morales avait fait passer avant son premier mandat avec l'aide d'un autre politique. Donc une loi qui est passée en 2005 et qui fait qu'un candidat peut gagner sans la majorité absolue dès le premier tour s'il a plus de 40% des suffrages et un écart de 10% de voix avec le candidat suivant. Alors le problème, c'est que le tribunal, l'autre jour, donc le 20 octobre, c'est que en fait le tribunal électoral a cessé de transmettre les résultats quand la tendance semblait mener vers un second tour, c'est-à-dire que Carlos Meza prenait de plus en plus de points et semblait être en passe de rattraper suffisamment Evo Morales pour l'obliger à faire un second tour. En conséquence, donc, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes parce que clairement, ça a été interprété comme un moyen de vouloir truquer l'élection. Surtout que le décompte des votes a repris le lundi suivant et on a abouti évidemment à une victoire d'Evo Morales. Donc, dans les principales villes du pays, il y a des manifestations assez importantes et même des grèves. On a certaines villes comme Santa Cruz de la Sierra qui sont complètement paralysés par une grève générale et on a des manifestations assez violentes dans tout le pays. En fait, derrière ça, on peut assister en fait au retour des divisions profondes de la société bolivienne. Hein. Alors déjà, la domination quand même d'une bourgeoisie blanche qui descend des colons, mais aussi l'opposition violente entre deux fractions des peuples indigènes du pays, que sont les Coya et les Cambas, ces derniers étant des indigènes issus des plaines et de l'est du pays, donc vers l'Amazonie, et qui sont plus embourgeoisés et qui ont tissé plus de liens avec la bourgeoisie coloniale, à l'inverse des Coya, qui eux sont des indigènes des plateaux, ceux qu'on assimile le plus souvent à la Bolivie sur les clichés touristiques avec leurs petits chapeaux et leurs ponchos. Donc, Morales, quand il avait été élu en 2005, hein, il avait renversé le système politique en Bolivie avec son programme socialiste et en se proclamant le leader des peuples indigènes. D'ailleurs, il devenait le premier président indigène en Amérique du Sud. Alors, au pouvoir, il a considérablement amélioré les droits des travailleurs et le pays a connu une phase de développement sans précédent, hein, mais un développement à relativiser, puisque Morales s'est quand même largement conformé à l'ordre néolibéral en place en Amérique du Sud, en attirant et en soutenant les multinationales étrangères, hein, le tout donc dans une économie complètement gonflée artificiellement par l'argent facile lié aux exportations d'énergie fossile. Et de plus, les inégalités restent très fortes, hein, les villes se sont bien enrichies, il y a eu un embourgeoisement, notamment donc, ce que je disais, d'une partie des indigènes, mais les populations rurales les plus pauvres, donc qui sont sur les plateaux notamment, n'ont pas vu leur situation vraiment s'améliorer. Ainsi, les peuples autochtones, hein, qui longtemps ont soutenu Morales, commencent à se détourner de lui. S'il garde un large soutien dans la population, donc celui-ci s'effrite de plus en plus entre son opposition à droite et un début d'opposition à gauche. Donc la situation en fait est assez similaire d'une certaine façon avec le Venezuela. On a un pouvoir socialiste et une bureaucratie qui tire profit de l'économie liée à la rente fossile. Avec la différence ici qu'en Bolivie, la culture de la coca est légale, ce dont tirent profit tous les narcos d'Amérique du Sud et les franges de l'État qui collaborent dans le trafic. Et il y a de forts soupçons que Morales lui aussi en tire profit. Donc la Bolivie semble donc en bonne voie, comme le Venezuela, de signer une bonne fois pour toutes la faillite de la gauche radicale gouvernementale en Amérique du Sud après le raz-de-marée qu'elle avait connu lors des différentes élections dès les années 90. Et plus que jamais, du coup, l'avenir de l'émancipation et de la révolution en Amérique du Sud semble se trouver dans la rue, comme dans des pays. Le Chili, on verra ça tout à l'heure.
Heureusement que Mélenchon est encore là pour soutenir tous ces présidents autoritaires.
Ouais. Et on passe du coup pour prendre des nouvelles au national de la patronne de la RATP.
Alors oui, la patronne de la RATP, comment s'appelle-t-elle? Catherine Guilloire, de son joli petit nom. Arrivée en 2007 à la tête de la RATP, elle a décidé donc tout récemment, là ces jours-ci, de s'auto-augmenter, c'est facile quand on est patron de faire ça, de 12,5%, c'est-à-dire 50 000 euros en plus par an. Soit, elle passe de 400 000 euros par an à 450 000 euros par an. C'est vrai qu'avec 400 000, ça devait être un peu dur, hein. On l'avait vu les semaines précédentes avec la femme de Carlos Ghosn qui nous disait que la France n'aimait pas les riches, et ça se voit, c'est vrai. Alors, elle est au plafond maximum des patrons des entreprises publiques. Mais Catherine Guilloire, ce serait pas un tantinet abusé quand même ce que tu viens de faire? Il nous semblait que quand même que les salariés de la RATP étaient légèrement en colère ces derniers temps. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en colère, les salariés de la RATP? Bah, peut-être parce qu'en 2016, ils ont eu 0% d'augmentation de salaire. En 2017, ils ont eu 0,6%. En 2018, à nouveau 0%. Et en 2019, 0,6%. Ce qui correspond entre 10 et 20 euros d'augmentation par mois selon les métiers. Merci vraiment, hein, ils vous remercient. C'est vrai qu'en face, le coût de la vie n'a pas du tout augmenté. Et en plus de ces salaires au rabais, pourquoi ils seraient en colère, les salariés de la RATP? Peut-être parce qu'on est en train de remettre en question la pénibilité de leur travail qui leur permet jusqu'à aujourd'hui, et fort heureusement, de partir en retraite un peu plus tôt que dans d'autres secteurs. Les travailleurs de la RATP ont des horaires systématiquement décalés. Ils ont des niveaux de pollution jusqu'à 30 fois plus élevés que dans la rue. Il y a quelques années encore, ces salariés avaient 6 jours par an de soins pour garder leurs enfants en cas de maladie. Aujourd'hui, il ne leur reste plus que 2 jours. Alors, qu'est-ce qu'elle croit, la Catherine Guilloire, que son augmentation de 50 000 euros par an couplé à des salaires qui stagnent pour les travailleurs et à la plus grosse attaque sur le régime des retraites qu'ils n'ont jamais vu venir, ça va passer crème? Il y a moyen que ce ne soit pas le cas. Le 5 décembre, les salariés de la RATP ont d'ores et déjà appelé à la grève reconductible. Et au vu de la grève du 24 septembre, qui n'était qu'un petit apéritif, hein, qui avait vu 90% de grévistes, on espère que plus aucun train ni aucun bus ne circulera en décembre à Paris. Ni ailleurs d'ailleurs, puisque en ce qui concerne les trains, les cheminots aussi sont énervés. On a parlé la semaine dernière de leur droit de retrait, hein, qui a été massivement suivi, mais depuis une semaine, les agents du matériel technicentre de Châtillon, en Ile-de-France, sur le réseau TGV Atlantique, hein, ce qui fait qu'il n'y avait plus beaucoup de TGV ces derniers jours, sont hors conductibles, partis en grève sauvage, sans encadrement syndical et sans le respect, je mets des guillemets, vous ne voyez pas mon signe, du délai de 48 heures imposé par le service minimum sous Sarkozy. Pourquoi ? Puisque la direction voulait leur sucrer les mesures de repos compensatoire, belle tentative qui aurait pu marcher et s'étendre partout si les salariés n'avaient rien dit. Et non, les agents de la SNCF, eh bien, ils savent bien que s'ils lâchent là-dessus, c'est tous les agents qui le subiront, alors qu'en parallèle, ils ont des salaires proches du SMIC qui sont gelés depuis 5 ans, et qui sont en sous-effectif, que la SNCF joue avec la sécurité des travailleurs et des usagers pour des questions de flexibilité et surtout de rentabilité. Alors, les agents de Châtillon, comme ailleurs, ils se préparent à la reconductible aussi du 5 décembre, puisque pour le moment, on a quand même Sudrail, Forail et un certain nombre de sections de la CGT, pas encore la nationale, mais on ose espérer que ça va arriver, qui appellent à la reconductible pour le 5 décembre.
Et maintenant, puisqu'on a un invité, on va avoir des informations de première main sur l'expulsion du squat Le Marais à Caen.
Alors, on a ici, présent, en exclusivité, un camarade de Caen. Bienvenue à toi.
Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir.
Petit rappel pour ceux et celles qui ne sauraient pas, quand c'est en Basse-Normandie, actuellement la Normandie, fusionnée avec la Haute, et c'est une ville qu'on pourrait appeler une ville frontière et qui depuis un certain nombre d'années, eh bien, depuis notamment le démantèlement de la jungle de Calais et du camp de Grand-Synthe, hein, donc dans le nord de la France, eh bien, a vu arriver pas mal de personnes qui souhaitent, de migrants qui souhaitent passer en Angleterre, notamment puisque pas loin de Caen, il y a un port, c'est le port de Ouistreham, avec un maire d'ailleurs complètement con des Républicains, soit dit en passant, mais qui fait qu'il y a un contexte particulier à Caen et que c'est dans ce contexte qu'a eu lieu cette ouverture. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quand a eu lieu cette ouverture et comment, pourquoi ?
Ouais, en fait, l'ouverture du squat du Marais, elle a eu lieu le 28 avril 2018, en plein moment du mouvement des cheminots. Il faut savoir qu'en fait, parce que je suppose que vous ne connaissez pas forcément la géographie caennaise, le squat était situé juste à côté de la gare de Caen. Et par des contacts menés, on a réussi quelque chose sur Caen, qui était la convergence des luttes, de manière très efficace, avec les cheminots. Et ceux-ci nous ont mis en contact à côté avec d'anciens syndicalistes d'Engie, qui nous ont dit, écoutez, les gars, on a... pas que les gars, d'ailleurs. Mais écoutez, on a un lieu, Engie vient de déménager, le lieu est vide, il est immense, votre lutte nous plaît, c'est à être... Et je cite là-dessus un ancien syndicaliste d'Engie qui disait « C'était un lieu de lutte pour nous pendant des années et des années. Maintenant celui-là, il est vide, il va être construit, machin, etc. pour je ne sais quelle boîte immobilière à la con. Nous, on trouve ça stylé qu'en fait, ça reste un lieu de lutte. Du coup, allez-y. »
Alors, qu'est-ce qu'a été le squat du Marais, puisque ça n'a pas été que un squat d'accueil et d'hébergement pour les migrants?
Le squat du Marais, moi je vais reprendre ce que je pense que d'une certaine manière et sans cynisme, le plus bel hommage qui a été donné au squat du Marais, et je pense que c'est complètement à ses dépens, c'est une espèce de connasse du Front National Canet qui nous a sorti que le squat du Marais c'était une zone de non-France, une zone de non-droit. Il était là, et bah ouais, en fait, c'est-à-dire qu'on a réussi ce qu'on a voulu faire. Le squat du Marais, ça a été à la fois un lieu d'hébergement pour près de 250 exilés de quasiment 4 continents. Donc on avait des Nigérians, des Mongols, des Géorgiens, des Albanais, etc., etc. Et à côté de ça, il était important pour nous, quand on l'a ouvert, de lier cette question de la lutte autour des exilés à des questions politiques concrètes. Quand je dis concret, c'est local. Et c'est pour ça en fait que les cheminots d'ailleurs étaient venus nous voir. Hein. C'était il y a tous ces trucs-là qui se passent en même temps. Convergence des luttes, ça signifie quoi? Et du coup, on a ouvert ce squat-là au autour de deux effectifs qui étaient l'Assemblée de lutte contre l'expulsion, qui existe depuis des années maintenant sur Caen, pour ouvrir des squats pour les exilés, et à côté de ça, un collectif qui s'appelait l'Espace Convergence, qui travaillait à la convergence des luttes, avec les cheminots, avec EDF, avec tous les secteurs en lutte. Et on a ouvert ce squat qui était immense, hein, c'est 32 000 mètres carrés de terrain, c'était certainement l'un des plus grands squats urbains ouverts jusqu'à sa fermeture le 22 octobre, son expulsion par les forces de l'ordre. Et ce squat-là, c'était un endroit où les flics ne venaient pas, hein, où on pouvait s'organiser de manière extrêmement libre, parce que justement avec cette sécurité-là, s'organiser avec des syndicats. On a eu les Gilets jaunes qui sont venus s'organiser sur ce lieu-là. On avait, évidemment, parce qu'ils y vivaient, en fait, des exilés qui sont venus s'organiser. Et toute cette rencontre, en fait, ce truc-là, qui est aussi un gros doigt d'honneur foutu à la gueule de tous ceux qui ont dit pendant tout le monde des Gilets jaunes que les Gilets jaunes étaient fachos. Peut-être dans certains endroits, ça a été le cas. Partout en France, ça ne l'a pas été, parce qu'on a quand même accueilli énormément de commissions, énormément d'assemblées générales des Gilets jaunes sur un squat d'exilés. Et ça, je tiens à le dire. Les Gilets jaunes, en tout cas dans le Grand Ouest et en tout cas à Caen, n'ont jamais été un truc fasciste, un truc raciste. Ceux qui l'étaient ont été mis à la marche par ce choix-là. Et ça a été un élément fondamental de ce qu'est Caen politiquement aujourd'hui.
Alors du coup, ce lieu a été expulsé, il était expulsable depuis le 1er septembre, il a été expulsé la semaine dernière. De quelle manière ça s'est passé? Combien de personnes se retrouvent à la rue? Et tu nous parleras un peu aussi des interpellations et des placements en CRA.
Tout à fait. En fait, le squat a été expulsé le 22 octobre, donc mardi de la semaine dernière, avec un dispositif de police relativement inédit, en tout cas sur une expulsion de squat à Caen. En même temps, un squat de cette ampleur-là était aussi tout aussi inédit. On a eu le droit à deux compagnies de gendarmes mobiles, une compagnie de CRS, quasiment, j'ai envie de dire, toute la BAC du monde. Moi j'ai décompté une cinquantaine de baqueux, j'avais le temps, j'étais menotté, j'ai eu le temps d'en compter pas mal. Et le raid, donc, qui nous pointait avec des fusils d'assaut, etc., etc. Sur le squat, en fait, donc, l'expulsion s'est déroulée de la manière suivante, c'est-à-dire que le squat avait été barricadé, alors la préfecture a sorti tout un tas de communiqués, etc., etc., disant que nous étions des gens violents, forcément, hein, c'est systématiquement ce qui revient. J'ai envie de leur répondre là très rapidement à ce micro ce soir, ouais, mais en même temps les gars, vous expulsez pas le squat, on n'est pas violents, hein, le plus grand des calmes, en tout cas pas sur le squat. Hein. Et donc du coup, le raid est intervenu parce qu'il y avait des camarades qui étaient montés sur les toits. Raid qui intervient dans les mesures du raid. Hein, fusil d'assaut pointé vers la tête des camarades, taser, etc., etc. La BAC intervient avec les flashballs dans des couloirs. Bon, il restait sur le lieu, à peu près 150 habitants, une cinquantaine de camarades qui étaient là, à côté de ça, en soutien. Les 150 habitants ont été, pour la plupart, tous ceux qui étaient en OQTF ont été exfiltrés du lieu avant l'intervention des forces de l'ordre. On les avait emmenés boire un café, prendre un petit déj et s'organiser pour les mettre en sécurité, parce que ouvrir des squats, c'est aussi mettre en sécurité les gens vis-à-vis de l'État. Et du coup voilà. Et là, que dire par rapport à cette expulsion-là? On n'a pas eu d'interpellation. Par contre, on a eu seulement 41 personnes de reloger pour 3 nuits d'hôtel. C'est pareil, hein, donc on a tout le discours de l'État de « oui, on reloge, que dalle, 3 nuits d'hôtel pour 40 personnes, 150. Merci les gars. » Maintenant, ce qui veut dire que ce soir, tout le monde est à la rue. Et à côté de ça, 12 personnes emmenées en CRA. Une personne a pu en être extraite suite à une procédure, enfin le fait de réussir à casser la procédure de son arrestation. Les autres sont toujours en CRA. C'est la première fois à Caen que ça arrivait. Voilà.
Bon, on va accélérer un peu parce qu'on a quand même un dossier sur le Chili tout à l'heure et un petit reportage sur la manif de samedi contre l'islamophobie. Merci pour le témoignage.
Mais de rien.
Et on continuera à dire ce qui se passe dans les villes de France dans cette émission.
Et du coup, voilà, on va enchaîner avec le reportage qui a eu lieu sur la place Guichard pour réagir à beaucoup de choses, mais notamment à l'agression contre une femme voilée accompagnatrice d'une sortie scolaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté le 11 octobre. Et depuis, cela s'est reproduit plusieurs fois, que des mères voilées soient refusées pour des sorties scolaires, comme par exemple le 14 octobre où les pompiers de Creil dans l'Oise ont annulé une visite scolaire pour ce motif. Donc une copine du Canu Info était présente et nous a ramené cet enregistrement dans lequel vous allez entendre d'abord une membre d'un collectif récent, Alliance Citoyenne, qui a organisé le rassemblement et qui a aussi organisé des actions cet été dans des piscines de Lyon et Villeurbanne pour réclamer le droit pour toutes les femmes de se baigner sans se dénuder autant qu'on les oblige à le faire. Il y a ensuite les paroles de manifestantes, puis les slogans et des prises de parole. Bonne écoute.
Musulmans, femmes voilées, on puisse reprendre la parole et qu'on ait une voix et qu'on nous entende et qu'on soit un petit peu représentés. Surtout face à la vague montante de l'islamophobie, nous, collectif Alliance Citoyenne de Lyon, avons décidé et lancé un appel au rassemblement aujourd'hui. Le contexte actuel et l'appel à la haine qui se diffuse un peu partout ne peut plus être cautionné. Que ce soit les propos discriminants ou encore la politique de délation ordonnée par la société de vigilance, le contexte politique français actuel fait froid dans le dos. Où sont passées les valeurs de la République ? Liberté, égalité et fraternité. Le principe de la laïcité a été déformé et utilisé pour stigmatiser et cibler une partie des Français. Sur seul motif, leur identité religieuse. Il est temps d'y mettre un terme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons tous citoyens et citoyennes à se mobiliser au nom du respect des droits de l'homme et de la liberté de chacun pour une République juste et laïque. Montrons à tous ceux qui discriminent, qui oppressent, blessent, transgressent les valeurs de notre pays, à quel point on peut être solidaires. Il est nécessaire aujourd'hui que nous fassions un bloc et que nous soyons unis face à toute forme d'injustice et de discrimination. Et ce, peu importe la religion. L'histoire va-t-elle encore se répéter ? Rappelons-nous que la stigmatisation appelle à la délation et que la délation appelle à la destruction d'un peuple. Averroès Ibn Rushd. Au deuxième siècle, il disait déjà « L'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine. La haine conduit à la violence. » Voilà l'équation. Bravo.
Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bonsoir, la liberté. Bonsoir, la liberté. Stop à la haine médiatique. Stop à la haine.
On est vraiment sur l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès aux sorties, aux loisirs. Là, pas plus tard qu'il y a une semaine, on a découvert qu'un centre sportif de Lyon interdisait des femmes voilées de pouvoir exercer du sport. On voit toutes ces polémiques autour du hijab de sport, de Nike, de Décathlon. En fait, ça ne peut plus durer. On nous reproche de vouloir faire du communautarisme. Et en fait, c'est eux qui nous poussent à trouver d'autres biais pour pouvoir être là, en fait. Non, on veut tout simplement être là, tout simplement. Et surtout qu'on est, utile. On est utile à cette société, on ne veut pas être en dehors de cette société. Voilà. Pour le travail, en tant que femme voilée, on se pose toute la question. On y va voiler, on n'y voit pas voiler. Parce qu'on sait déjà que la discrimination, elle existe juste avec son nom et son prénom. On va pas se mentir. Si tu rajoutes en plus à ça le voile, tu te fermes quand même pas mal de portes. Donc, rien que ça, on a une peur. On a une peur. Cette peur, elle est négative, mais elle peut être aussi positive parce qu'elle nous force à faire d'autres choses, à nous organiser, à devenir nos propres patrons. Mais bon, c'est pas non plus le but. Le problème du logement, quand on passe par des privés ou parfois par des agences, moi, ça m'est arrivé, par exemple, qu'une fois, on me demande de mes origines en me demandant est-ce que je suis pas raciste, mais est-ce que tu peux, ton nom a une connotation, est-ce que tu as des origines. Ça m'est déjà arrivé aussi une deuxième fois qu'une personne, que l'agence me dise écoutez, c'est pas contre vous, mais le propriétaire il veut pas d'arabe ou de noir dans son logement. Des petites choses comme ça. Moi à l'époque j'étais plutôt jeune, je savais pas comment me défendre face à ça et je suis restée avec cette injustice, cette rage en moi. Et je pense que ce qui est le plus dur, c'est quand ces personnes nous renvoient qu'on exagère et que en fait on est toujours en position de victime. Non, on n'est pas des victimes, on n'exagère pas. C'est des choses qu'on vit et c'est encore plus difficile à nous quand on nous renvoie ça.
Tous ensemble contre l'islamophobie. Le vivre ensemble et le respect.
Je suis venue aujourd'hui parce que je trouvais ça important en fait de pouvoir montrer que je trouve que c'est pas normal en fait ce qui se passe en ce moment. Et je suis assez fatiguée en fait de tout ce qui se passe ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années en fait, par rapport au climat islamophobe qui se développe. Je vais même pas dire que je suis en colère en fait, c'est de la fatigue en fait que je ressens au niveau sentiment, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je suis venue avec ma petite pancarte écrite de mes petites mains pour pouvoir exprimer en fait ce que je pensais. Alors j'ai écrit « Tu perds ton temps avec mes vêtements pendant que moi je construis le monde présent ». Je suis venue ici pour faire valoir mes droits tout simplement, donc je tenais à faire entendre que à tous les islamophobes qui sont en France que je porte le voile de mon plein gré et que je n'ai jamais été aussi libre que depuis que je porte le voile. Donc je suis également venue avec ma pancarte « Donne-moi de la haine, je t'en fais de l'amour ». quand je vois que par exemple à Lyon, il y a des centaines et des centaines de personnes qui vivent à même le sol, à la rue, avec des bébés, des nourrissons, et là il y aura bientôt le plein grand froid, je me dis mais purée, c'est chaud en fait de se préoccuper d'un sujet aussi futile que la tenue vestimentaire, alors que derrière on fait rien du tout pour ces personnes qui sont à la rue.
L'église et l'État, la neutralité de l'État, liberté de culte et absence de discrimination. Aujourd'hui, ceux qui prétendent défendre la laïcité sont les premiers à la piétiner, au lieu de répondre aux vrais problèmes de notre pays, à savoir un taux de pauvreté à 14%, 2 millions de travailleurs pauvres, 130 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans qualification, ils préfèrent débattre de la tenue vestimentaire acceptable dans l'espace public. Et pendant ce temps, les inégalités se creusent et la pauvreté s'étend. Les médias, dirigés par 9 milliardaires, préfèrent voiler les problèmes sociaux et diriger le débat public sur un morceau de tissu. Il ne faut pas compter sur les chaînes publiques financées par nos impôts pour relever le débat. Pas besoin de rappeler à qui France 2 a laissé la parole pendant des années. Combien de temps encore allons-nous payer pour nous faire insulter? Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Organisons-nous!
Et voilà pour le rassemblement contre l'islamophobie. Et on va enchaîner tout de suite avec nos invités qui nous vont nous parler de la situation au Chili.
Oui, le Chili qui connaît depuis 2 semaines une mobilisation contre le pouvoir massive et inédite. Hein. Vendredi dernier, c'était plus de 2 millions de personnes dans les rues à Santiago. Et donc aujourd'hui, on accueille 3 étudiantes chiliennes pour nous parler de la situation au Chili. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonsoir, je m'appelle Florencia Cárdenas Poza et j'étudie en 3e année à Émile Coll.
Bonsoir, je m'appelle Nathalie Ancieta, je suis chilienne et j'habite à... Enfin, je suis de Grenoble, je suis de l'université de Grenoble.
Et moi je m'appelle Valentine Bocicandia, chilienne aussi, j'habite à Lyon depuis septembre et j'étudie à la prépa des Beaux-Arts.
Ok, alors... Pour commencer, nous en France, ce qu'on sait du mouvement, c'est qu'il a démarré avec l'augmentation importante des tarifs du métro à Santiago. Mais est-ce que vous pourrez revenir plus en détail en fait, sur les causes sociales, politiques et économiques à l'origine des manifestations et des émeutes ?
Et à l'origine, bon, après la dictature, n'est-ce pas ? Et il a eu beaucoup de... Le peuple a demandé beaucoup de revendications, telles comme en termes de santé, la santé au Chili est privée, en termes d'éducation, toute l'éducation est privée aussi, et l'eau, l'électricité, le gaz, tout est privatisé au Chili et en ce moment. Donc la hausse de, l'augmentation du prix dans le métro ou dans les transports publics, et ça génère... En fait, la goutte qui déborde le verre.
Oui, qui a fait déborder le vase. Ouais, ouais. Mais en fait, le Chili, en France, on sait que c'est le premier pays où c'est le pays où est né le néolibéralisme. Mais concrètement, vous, en tant que chilienne, c'est quoi l'expérience d'un pays vraiment avec un néolibéralisme avancé? Est-ce que vous percevez des différences avec la France, etc.
Oui, par exemple, au Chili, on peut voir que dans toutes les communes, il y a au moins un centre commercial. Donc c'est très renforcé dans cette partie de l'économie et de la société de consommation. Et c'est très présent partout. Il y a des publicités partout. Par exemple, ici en France, quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivée, c'est qu'il y avait des pubs pour les livres. Et alors que là-bas, c'est que des trucs pour... les vêtements ou tout ce qui est...
De marque.
Ouais.
Ok, puis en fait la colère sociale en ce moment elle est quand même très dirigée contre le président actuel, donc Piñera. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce président, d'où il vient, qui c'est, à quel parti il appartient?
Et le président Piñera est plutôt une personne de droite, et je dirais d'extrême droite quand même, et très, avec des valeurs très religieux aussi. C'est très conservateur de leur pensée. Il appartient à un parti politique où on connaît qui c'est, très très conservateur, Oudi, qui mélange un peu la politique avec la religion en fait.
Ouais, moi ce que j'avais compris, c'est qu'il vient d'une famille dont, enfin, son père a été membre du gouvernement sous Pinochet. C'est, oui. Ouais, c'est bien oui. Ça. Donc il y a une forme de continuité un peu avec la dictature, d'une certaine manière, dans les politiques actuelles.
Et
Je pense que oui, parce que déjà le ministre de non le premier ministre. C'est quoi le ministre de l'Intérieur? Chadwick.
C'était Chadwick, maintenant il a renoncé.
Ouais. Maintenant il est plus là, mais c'était son cousin.
Ouais.
Et aussi il y a son fils qui a un rôle dans la politique, et donc on voit que c'est quelque chose de famille. Ils se sont choisis entre eux. Et ils ont des idées communes qui viennent de très loin, même de la dictature. Donc ça m'étonne pas que ça soit encore présent.
Ok. Donc mais là justement on parle du ministre de l'Intérieur, donc. Ce qui a beaucoup choqué à l'international, c'est l'ampleur de la répression, hein, avec quand même la mise en place de l'état d'urgence, un couvre-feu dans la plupart des villes. Récemment, les bilans, ils faisaient état de 20 morts, sans compter les disparus et les blessés. Est-ce que vous avez plus d'infos sur l'ampleur de la répression? Et à votre avis, pourquoi il y a eu un tel déchaînement répressif pour ces émeutes et ces manifestations, quoi?
Ouais, mais en fait, on a vu que récemment, il y a beaucoup plus de gens qui ont été déclarés. En fait, il y a 20 personnes qui confirmées mortes, mais ils disent qu'il y en a 42. Parce qu'après, il y a quelques corps qui n'ont pas été retrouvés parce qu'ils ont aussi assassiné des gens dans le métro. Ils ont brûlé des corps, du coup, ils ne peuvent pas retrouver l'identité des personnes. Il y a aussi 121 disparus. L'information d'il y a deux jours, donc on ne sait pas trop comment ça a évolué. 17 dénonces de violences sexuelles hommes et femmes. Après, il y a un cas particulier qui était dans un supermarché d'un homme qui a été agressé par la police parce qu'il était homosexuel et il a été violé avec le... Comment on appelle
Le tonfa.
Ouais.
La
matraque.
Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est. Bah, en fait, il y a beaucoup de violence et on parle de doctrine de choc au Chili.
Ok, qu'est-ce qu'il veut dire ce terme?
C'est un thème qui parle un peu de. Un peu comme la terreur en France, qui montre des violences pour que les gens ils aient peur et qu'ils ne sortent pas manifester, pour qu'ils restent chez eux, avec le. Aussi avec le couvre-feu, donc pour qu'ils aient peur d'être dehors, quoi.
Et aussi avec la transformation des médias aussi, par la télé par exemple. Enfin, ils montrent les personnes qui se révoltent, en fait, les jeunes, on les montre comme des délinquants, on montre qu'ils brûlent, on fait des voitures, des supermarchés. Comme ça, les personnes qui sont chez eux en train de regarder la télé, ils s'informent et disent « Ah oui, en fait, ceux qui se révoltent, c'est des délinquants, enfin, c'est le mauvais côté, il ne faut pas se révolter. C'est l'État qui est le vrai héros dans cette histoire. » Alors que pas du tout, en fait, on voit des vraies images, enfin, par exemple, qui maintenant avec les médias, enfin les réseaux sociaux, par Facebook aussi, on voit des vidéos, il y a des personnes qui chantent, il y a des enfants, en fait, dans les manifestations, enfin, et c'est vraiment une ambiance si enfin, accueillante, en fait. Enfin, voilà, on proteste, mais c'est le peuple qui proteste d'une manière un peu enfin, pacifique, alors que enfin, la télé, elle me dit c'est des délinquants.
Et... Pourquoi, à votre avis, le pouvoir a besoin d'être aussi violent, en fait? Enfin, pour réprimer cette colère, pourquoi un tel déchaînement de violence, vraiment?
Je pense que c'est une décision du président et sa façon de faire les choses. C'est très similaire à la dictature. Il a une pensée très militaire. Et dès qu'il y a des manifestations un peu, et, je dirais pas violentes, mais je sais pas... Et lui, à la base, il veut protéger les espaces privés, et surtout, et c'est sa façon d'éviter ça, apparemment, de faire de la répression violente sur les gens.
Ok, donc tu parlais de la dictature justement, les images de militaires dans les rues, justement ça réveille un peu des vieux démons de la, enfin, dans la société et dans les familles par rapport à la dictature, non?
Et oui, et mes parents qui ont vécu la dictature, ils me disent que c'est la même chose. Et c'est les militaires qui sont dans la rue tout le temps, même si maintenant on n'a pas plus de couvre-feu, ils continuent dans la rue et ça réveille absolument les moments de la dictature. Oui.
Aussi que, enfin, ça réveille aussi le fait, ce sentiment de ne pouvoir pas faire confiance au fait, aux personnes qui sont censées te protéger. Par exemple, enfin, les militaires, enfin.
Ou la police même.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand on se sent en danger, on ne sait plus qui appeler. Il faut juste qu'on se soutienne entre nous. Parce qu'après.
Il y a aussi le phénomène des casserolazo, qu'on appelle là-bas. C'est le fait de taper dans les casseroles. Voilà, c'est une manière de protester pacifiquement lorsque c'était le couvre-feu. Voilà, les personnes ne pouvaient pas sortir. Du coup, c'est une manière de protester chez eux. Et,
qui vient de la dictature. Oui.
Ok. Et justement, on parlait de vos familles. Vous avez des contacts avec eux en ce moment? Est-ce que c'est difficile? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous disent sur la situation actuelle?
On parle beaucoup tous les jours avec nos familles. Et ils disent qu'ils sont bien et il n'y a pas de graves accidents. Mais par exemple, cette semaine, j'ai appris que mon cousin il a été pris par la police. Il était dans le commissariat pendant tout un jour. Et il a été battu, il a 20 ans, il a été terriblement battu. Donc oui, j'ai très peur en général, parce que comme je suis loin, je ne suis pas là pour les embrasser, pour les soutenir aussi, et c'est difficile quand même.
Oui, enfin, nous on a un groupe en fait de famille, enfin, par WhatsApp surtout, qu'ils envoient des vidéos. Il y a mes cousins aussi qui vont se protester à Santiago, ma mère aussi, elle y va. Et oui, enfin, les vidéos qu'on reçoit sont très fortes aussi, de s'imaginer. Enfin, oui, j'étais là il y a 2 mois, enfin, penser dans les rues comme ça, se promener avec des amis, enfin, avec ma famille. Et là, on voit toutes ces personnes, toutes ces images de manifestations, et oui, c'est fort, mais heureusement, oui, ils vont bien. Enfin, mes amies, enfin, j'ai un peu plus peur d'elles, parce qu'elles sont... après le couvre-feu, elles continuent à se protester, donc ouais.
Mmh. Ouais, pour moi, c'est un peu pareil, parce que dans ma famille, j'ai beaucoup de cousins, et ils sortent aussi manifester, et ils nous envoient des photos des manifestations, ou sinon, par exemple, ma mère, elle était sortie avec la famille boire un verre le jour où ils ont commencé à lancer les manifestations et tout ça. Du coup, elle n'avait pas de moyen de rentrer chez elle. Elle a dû héberger ma famille chez elle parce qu'ils habitaient trop loin. Ils n'avaient plus de moyens de transport. Donc après, on apprend beaucoup de choses, mais on a quand même une certaine désinformation de la part de notre famille parce qu'ils veulent nous rassurer que tout va bien. Mais à la fin, ça nous préoccupe d'un certain point aussi, parce que ben, c'est pas vraiment ce qui se passe.
Les réseaux sociaux.
Ouais. Ouais.
Ok. D'accord. Et toutes ces manifestations, enfin, le mot d'ordre qui ressort, qu'on a pu voir dans les rassemblements qui a eu lieu cette semaine, il y a eu 2 rassemblements, un mercredi et un dimanche à Lyon, en soutien aux manifestations. La principale revendication, donc, c'est la démission de Piñera, mais il y en a aussi une autre qui est la mise en place d'une assemblée constituante pour réviser la constitution. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi cette volonté de changer la constitution?
Et en ce moment, la constitution au Chili se concentre beaucoup dans on appelle ça faire plus riche aux riches. C'est une constitution sa priorité, c'est de rassurer le commerce et enfin le néolibéralisme au Chili, et c'est ça qu'on cherche à changer, en fait, d'avoir un nouveau système.
Ouais, parce que cette constitution, elle a été créée pendant la dictature, après la dictature. Donc il y a une vision des choses qui était un peu floue. Donc là, on a pris du recul par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées, et là, je pense qu'on est en mesure de créer quelque chose qui correspond à tout le monde. Surtout que là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent pour faire une assemblée constituante, et bah, je pense que c'est le bon moyen de faire les choses en ce moment.
Mais aussi, surtout, c'est cette constitution qui est en fait privatisée, tous les services basiques, en fait, comme l'eau, voilà, l'électricité, le transport, le cuivre aussi, les ressources naturelles du Chili. Donc oui, c'est surtout ça, la santé aussi, l'éducation. Donc,
Et le recours facilité à l'armée et ce genre de choses aussi, non ?
Oui.
Ouais. Et est-ce qu'il y a... alors, on a vu des manifestations massives avec des modes d'action donc pacifiques, mais aussi des manifestations plus violentes, enfin avec des confrontations où carrément on brûlait par exemple les guichets de métro, etc. Ces modes d'action qu'on a pu voir pendant des mouvements étudiants et lycéens au Chili qu'il y a eu ces dernières années contre le prix des études, est-ce qu'il y a une forme de continuité? Est-ce que les étudiants et les lycéens sont investis dans le mouvement actuel?
Oui, parce que juste avant de ce mouvement, il y avait un grand mouvement pour l'éducation. Parce que l'éducation est trop chère et les gens ils s'endettent pour pouvoir faire 2 ans d'études et à la fin ils finissent par arrêter parce qu'ils ne peuvent plus payer. Donc je pense que du côté des jeunes, il y a vraiment une force très grande de haine un peu envers le gouvernement qui privatise l'éducation. Et oui, donc je pense qu'ils se sont un peu habitués à faire des arrêts de cours, comment on appelle ça, des grèves, oui. Ouais. Ils font des grèves et aussi ils sortent dans la rue manifester avec ses amis, donc je pense que c'est quelque chose qui est devenu un peu habituel. Et le fait que maintenant il y ait ça, les gens ils sont motivés pour lutter pour ce qu'ils veulent.
Oui, c'est aussi parce que c'est les jeunes principalement qui accumulent cette haine. Ils voient leurs parents galérer pour arriver à fin de mois avec un salaire précaire. Et ils sachent ce que c'est l'injustice surtout. Et ils ont beaucoup d'empathie et la force pour pouvoir se manifester.
Oui, parce qu'un salaire minimum... Au Chili, c'est aux alentours de 380 euros. Et une année universitaire, ça coûte 5000 euros en moyenne. Donc, c'est juste pas possible.
Ouais, c'est un des systèmes d'éducation les plus chers au monde, c'est ça, hein ?
Je sais pas exactement.
En Amérique latine, en tout cas.
Oui, ça me surprendrait pas. En Amérique latine, oui, c'est sûr.
Okay. Et vous avez déjà fait organiser 2 rassemblements là à Lyon. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite depuis la France pour soutenir le mouvement?
On en a déjà fait 5, je crois.
Oui.
Ouais, on s'est organisé sur.
J'ai mal compté alors.
Oui. Ben, on a fait plusieurs, un peu en
douce, différentes parties aussi. Ouais.
En fait, on a fait des rassemblements depuis la semaine dernière, dimanche. Et après toute cette semaine, sauf samedi dernier, et le rassemblement le plus grand qu'on a fait, c'était hier. Et après, je pense qu'on va continuer à en faire au moins un par semaine. On va se donner un jour pour continuer à appuyer le mouvement un peu pour la justice. Après, ça serait pas que pour le Chili, ça serait un peu pour tous les pays qui luttent en ce moment pour l'égalité, la justice et justement... tout ce qui est dignité de vie en général.
Et un changement dans le système.
Un système plus juste, ça. En fait, c'est ça. C'est pour la justice et l'égalité, en fait.
Il y a des pays en particulier, des ressortissants de pays en particulier avec lesquels vous avez tissé des liens ces derniers temps ou...
Moi, j'ai une camarade de classe de l'Équateur. Et il y a eu aussi des manifestations en Équateur par rapport à la hausse du pétrole. Donc elle m'appuie dans mes manifestations pour le Chili, des fois elle vient, elle ramène ses amis équatoriens, aussi avec la Bolivie.
Oui.
Là on arrive à la fin de notre temps d'antenne, du coup s'il y a quelque chose d'important à dire, c'est peut-être maintenant.
Bah, j'avais juste une petite. Enfin, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez dire en particulier à cette radio ou...
Particulièrement, j'espère que avec le mouvement, ce mouvement, le Chili peut réveiller et aider un changement social plus grand que le Chili. C'est plutôt l'Amérique latine qu'on cherche. Et revoir les priorités et le système, parce que là maintenant le système néolibéral et c'est un expériment en Chili et c'est, on ne soutient plus ça. C'est,
et aussi qu'ils n'arrêtent pas de lutter, juste ça, vraiment. C'est la plus grande peur qu'ils arrêtent tout ça et que ça, toute cette haine n'aurait servi à rien en fait, c'est ça la peur.
Et bah, que toutes les tortures et tous les massacres de la part des militaires ne se reproduisent plus jamais dans l'histoire. Après, c'est un peu ambitieux, mais...